Alors bonjour à tous, je suis bien conscient que j'ai une tâche bien difficile ce matin puisque je suis la dernière personne à parler avant la pause de midi et que les estomacs s'allongent. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop long. Alors avant de commencer, je me permets de me présenter. Donc je m'appelle Jean-Pascal Pfister, j'ai 35 ans, je suis marié depuis 11 ans et père de 4 enfants dont le dernier a pointé le bout de son nez il y a tout juste un mois. Alors notre petit Jocelyn nous rend autant heureux que fatigués. Et qu'est-ce qu'il nous rend heureux? Donc, comme l'a dit Lydia, au niveau professionnel, j'ai étudié la physique à l'EPFL, donc à Lausanne. J'ai fait un doctorat en neurosciences computationnelles à l'EPFL pour mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage et la mémoire au niveau des connexions entre les neurones, au niveau des synapses. Après un détour d'un an et demi dans une entreprise d'ingénieur consultant, je suis revenu dans le monde académique en faisant mon premier postdoc à Cambridge en Angleterre. Ce fut un temps très riche pour moi et pour toute ma famille. Ce fut une expérience enrichissante au niveau intellectuel en étant confronté à de nouvelles écoles de pensée. Nous sommes aussi beaucoup plus dans l'église que nous avons fréquentée. Ce fut aussi pour moi une belle découverte du dialogue science et foi. Je me souviens d'une conférence intitulée « Darwin and God » organisée par l'Institut Faraday. Un de mes amis suisses, qui faisait aussi un échange à Cambridge, m'a proposé d'y aller avec lui. Alors nous y sommes allés et avons découvert avec joie que le niveau des présentations était excellent. Rien à voir avec une forme de créationnisme américain qui se refuse de confronter aux évidences. Par la suite, cet ami et sa femme nous ont rejoints dans notre église, alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de fréquenter une église. Puis nous nous sommes retrouvés une fois par semaine pour lire ensemble l'évangile de Luc. C'était un réel bonheur de pouvoir partager ma foi avec mes amis. Je suis donc très reconnaissant au Faraday Institute qui a agi comme une allumette mettant le feu à nos discussions. À propos de Darwin and God, je me permets d'ouvrir une toute petite parenthèse. En tant que scientifique chrétien, nous sommes ambassadeurs du Christ dans le monde scientifique, mais nous sommes aussi ambassadeurs scientifiques dans la famille de la foi. Personnellement, j'ai trouvé ce deuxième aspect plus difficile à vivre. Une grande partie de ma famille, mes parents, frères et sœurs, grand-mère de 93 ans, oncle et tante, sont venus nous visiter à Cambridge. Avec presque chacun d'eux, j'ai parlé de Darwin, qui a vécu lui-même à Cambridge, et Cambridge fêtait les 200 ans de son anniversaire, enfin de sa naissance. Presque à chaque fois, j'ai été confronté à un mur d'incompréhension. Il me semble que la Genèse est claire. Pourquoi crois-tu autre chose ? Je me fais du souci pour ta santé spirituelle. La science change de jour en jour. Sous-entendu, on ne saura jamais ce qui est vrai. Par contre, la Bible ne change pas. Il faut reconnaître que ces questions font peur tant elles bousculent les conceptions du monde. Je me souviens même, c'est une petite anecdote, je me souviens d'un jour où j'ai discuté de ces questions, création-évolution, avec ma tante et ma grand-mère qui étaient venues nous visiter. Le lendemain, ma grand-mère faisait une sieste sur notre canapé. Et ma tante me lance. Tu sais, grand-maman a relu les premiers chapitres de la Genèse. Elle n'est plus convaincue par tes théories. C'est à ce moment qu'un œil s'ouvre sur le canapé. Et elle lui dit, mais ce n'est pas que je ne suis plus convaincue par tes théories, mais je n'y ai jamais cru. Voilà pour ma grand-mère de 93 ans à ce moment-là. Je referme la parenthèse. 2 ans plus tard, nous sommes rentrés en Suisse et je travaille depuis 2010 à l'université de Berne. Où j'ai depuis peu la responsabilité d'un petit groupe de recherche. Mais venons-en au thème du jour. Quels sont les défis du chrétien dans la science et plus précisément, quels sont mes défis en tant que chrétien et responsable d'un groupe de recherche? Il y en a certainement beaucoup. J'ai choisi de me concentrer sur 3 défis qui sont certainement aussi des défis dans d'autres professions. Pour moi, il y a le défi de l'autorité, le défi de la sécurité de l'emploi et le défi de la carrière. Et pour illustrer ces 3 défis, j'ai pensé les mettre en perspective avec les 3 défis auxquels le Christ a été lui-même confronté. Je vous propose de lire donc dans Matthieu le texte de la tentation du Christ, puis de considérer les parallèles entre les trois tentations du Christ et les défis du chrétien dans la science. Donc je lirai dans Matthieu, au chapitre 3, verset 16, ou deux versets avant le texte sur la tentation. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, et la plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan. » Car l'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Lors de son baptême, Jésus est déclaré fils de Dieu. La réalité de sa filiation divine le suivra tout au long de son ministère, depuis cette parole lors de son baptême qui ouvre son ministère, en passant par son enseignement qui est ancré sur cette réalité jusqu'à son chef d'accusation devant le Sanhédrin, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. C'est bien cet ancrage que le diable va mettre en question lors de la tentation. Mais revenons au scientifique. Le pain quotidien du scientifique, c'est d'écrire des articles ou des demandes de financement. La devise « publish or perish » est bien l'implacable réalité du quotidien des scientifiques. It's publish or perish, and he hasn't published. C'est un peu, voilà. Le choix d'un candidat pour une position est très souvent lié au nombre de publications et aux journaux dans lesquels les publications sont faites. Pour survivre dans le milieu académique, il faut publier encore et encore. Il n'y en a jamais assez. C'est comme un monstre qui en demande toujours plus. Comment réagissons-nous en tant que chrétiens face à cette pression ? Je me souviens, en début d'année passée, quelques mois avant un délai important pour une demande de financement, j'ai fait comprendre à un de mes doctorants que je supervise, que ce serait bien qu'il finisse son travail avant ma deadline, de façon à faciliter ma demande de financement. Je suis tombé dans le piège d'utiliser ma position d'autorité pour mes propres fins. Après avoir réalisé mon erreur, j'ai demandé pardon au doctorant. Dans la première tentation, Jésus est confronté à un défi du même genre. Il est le Fils de Dieu. En tant que maître de la création, il a le pouvoir de changer les pierres en pain. Il aurait pu utiliser sa position d'autorité pour satisfaire ses besoins nutritionnels. La réponse de Jésus à cette question est magnifique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La profondeur de cette réponse s'apprécie sous plusieurs aspects. Premièrement, Jésus change le focus. Manger, on en a tous besoin. Mais il y a plus que cela. De même, pour un scientifique, publier fait partie du quotidien, mais il y a plus que cela. Deuxièmement, Jésus n'utilise pas sa position d'autorité pour faire son besoin physiologique, mais fait confiance à Dieu qu'il prendra soin de lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données de plus, dira-t-il dans son discours sur la montagne. Troisièmement, se mettre à l'écoute des paroles de Dieu, de ses paroles de vie, de ses paroles valorisantes, nous permettre de relativiser cet ogre qui en demandent toujours plus. Juste avant cette première tentation, Jésus reçoit cette parole, et c'est pour ça que je vous l'ai lu avant le texte de la tentation. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Nous sommes enfants de Dieu, il nous aime indépendamment de notre productivité scientifique. » Pour résumer ce premier point, je pourrais dire « Le scientifique chrétien ne vivra pas de publication seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans la deuxième tentation, le Christ est mis sur le toit du temple, dans une position d'insécurité. Un mauvais pas et il tombe. Grande majorité de scientifiques vivent dans l'insécurité quant à leur place de travail. Bon, ici, c'est le jeune professeur non tenured, enfin, ou pas encore, et puis, bon, avec le temps. Mais on pourrait aussi mettre ici le postdoc ou responsable de groupe qui n'a pas encore de position stable. En ce qui me concerne, la bourse que j'ai obtenue prend fin dans 2 ans. Comment réagir en tant que chrétien face à cette insécurité? Je me souviens avoir eu une discussion avec le chef de l'Institut sur la sécurité de mon emploi. Évidemment, de son côté, il a un emploi fixe depuis longtemps. Il me fait part de ses intentions de me garder pour la suite, mais il n'y a évidemment rien de signé et ses intentions peuvent changer. Lorsqu'il a réalisé que je ne me sentais pas très rassuré par ses promesses qui parfois sont en l'air, il m'a dit, sachant que je suis chrétien, on a souvent discuté de la foi ensemble, mais n'est-ce pas dans la Bible qu'il y est écrit « Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même » Il a bien évidemment touché un point sensible. Faire confiance à Dieu est certainement la clé. Dans cette deuxième tentation, la tentation du diable est quelque peu différente. Sa proposition est de forcer la main de Dieu. Ce texte fait référence au peuple d'Israël qui était dans le désert et a eu soif. Dans Exode 17, verset 2, nous lisons « Et le peuple contesta avec Moïse et ils dirent « Donnez-nous de l'eau que nous buvions. » Et Moïse leur dit « Pourquoi contestez-vous avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Et un peu plus loin, il appela le nom du lieu Messa et Meriba à cause de la contestation des fils d'Israël et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? » Plutôt que d'être convaincu que Dieu est présent et prendra soin d'eux, le peuple doute de la présence de l'Éternel et se met à exiger à boire. Il prend Moïse, et par là même Dieu aussi, pour leur esclave, à qui il peut leur donner des ordres. Il lui force la main. Dans la deuxième tentation, le diable propose la même chose, de sauter du temple, ainsi forcer Dieu à le rattraper. Le défi se trouve donc là. Faire confiance à Dieu sans lui forcer la main. La troisième tentation touche au cœur de la mission du Christ. Jésus est venu pour établir un royaume. Le diable lui propose un raccourci. S'agenouiller devant lui pour devenir roi. Vous imaginez, ça le fait dans le CV, non ? Âge, 30 ans, célibataire, formation charpentier, expérience professionnelle, roi. Pas mal. Le problème, c'est que le Christ est venu établir un royaume de vérité. On se souvient de sa réponse à Pilate dans Jean 18. Pilate lui dit donc, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Il y a là une contradiction évidente. Comment se courber devant le père du mensonge pour devenir roi d'un royaume de vérité? Et le chrétien dans la science, quel est le lien avec tout ça? La mission du scientifique est de découvrir la vérité sur les lois de la nature. La tentation est de développer des idées, des théories attractives qui feront beaucoup d'adeptes, mais qui ne sont pas forcément véridiques. De chercher à devenir roi ou maître d'une école de pensée pour faire briller son propre ego et non rendre gloire à Dieu, le créateur de l'univers. Plus simplement, la tentation peut être de chercher à publier rapidement pour booster son CV, sa carrière, sans faire les vérifications qui se doivent et ainsi trahir le critère de vérité. Voilà, ça c'est un autre raccourci pour booster le CV. Personnellement, je trouve cette question carriériste très délicate. très délicate, pardon. Le CV est constamment demandé pour une demande de financement, pour une postulation, pour une progression. La tentation est grande que le CV devienne un but en soi. La réponse de Jésus à cette tentation carriériste est des plus claires. Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est pas moi, mais c'est lui. Cette réponse ne souffre d'aucune ambiguïté. Jésus savait que le chemin d'obéissance à son Père céleste était plus long, plus douloureux, mais que c'était le seul chemin de vérité. En tant que chrétien, notre mission première est de glorifier Dieu. En tant que chrétien dans la science, à mon avis, cela peut se décliner de deux façons différentes. Premièrement, en cherchant à faire de la science qui glorifie Dieu, et deuxièmement, en partageant sa foi avec ses collègues. En ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ma foi avec mes collègues à l'EPFL, à Cambridge et maintenant à Berne. C'est peut-être un des avantages de la mobilité académique que de pouvoir être intégré dans différents labos et ainsi pouvoir partager sa foi avec plus de personnes. Étant donné que mon sujet de recherche est dans les neurosciences, beaucoup de questions philosophiques, voire théologiques, arrivent naturellement dans les discussions, ce qui permet plus facilement de parler de ma foi. Par exemple, la question du libre arbitre est une de mes questions favorites, même si je n'ai pas de réponse satisfaisante à cette question. Si notre cerveau est soumis aux lois de la nature, pouvons dire que nous prenons nos choix librement? Qu'est-ce que la liberté? Enfin, il y a des tonnes de questions liées à ça. C'est autant de passerelles pour parler de ma foi. En guise de conclusion, je me permets de vous encourager à mettre votre confiance en Dieu et à lui rendre gloire dans votre domaine de recherche, dans votre vie relationnelle au travail et dans votre vie familiale. À Dieu seul soit la gloire.